Voilà, donc nous allons reprendre notre petit topo sur le thème maturité humaine et spirituelle et discernement. Maturité et discernement, voilà. Le thème, c'est ça, maturité humaine et spirituelle et discernement. Pourquoi d'abord maturité humaine et spirituelle? Parce que les deux vont de pair. Et c'est important de ne pas vouloir spiritualiser les affaires, alors qu'il y a des, j'allais dire des, quand je suis, Dieu guérit par le médecin en général, c'est-à-dire c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que c'est par des moyens humains aussi que je suis appelé à grandir, et de ne pas vouloir mettre ou spiritualiser pour ce qui pourrait faire au plan humain. Et ça, je pense que c'est important de donner. Il y a l'ordre de la nature et il y a l'ordre de la grâce. Bien sûr, il y a des actions, des interactions entre les deux. Mais à nous aussi de ne pas éliminer la grâce en comptant sur nos forces simplement, et éliminer la nature en spiritualisant les affaires. Et en disant, ben, Dieu m'aidera, et alors qu'il a justement des moyens humains par des visages humains qui sont à tes côtés, à cette logique de l'incarnation, que Dieu aussi vient à ton secours. Donc du coup, maturité humaine et spirituelle, nous sommes une unité. Et de fait, maturité pourrait se traduire par une certaine harmonie, unification de nous-mêmes, une certaine perfection dans l'amour, un certain équilibre, une certaine force intérieure, vérité sur nous-mêmes. Tout ça, c'est un peu les différents moyens que l'on peut, avec lesquels on peut traduire le mot maturité. Hein, maturité humaine et spirituelle. Sachant qu'il y a deux formes, grosso modo, et les deux sont plus ou moins en nous, deux formes de d'immaturité, le fait à la fois de vouloir être au centre de tout, s'auto-centrer, nombril du monde, et le fait de se sentir victime, mais d'une victimisation qui est entretenue, hein, et qui va faire au fond que je ne vais pas me développer comme homme, comme femme, debout. Parce que la vie chrétienne, comme la vie humaine, et la vie chrétienne, etc., essentiellement, c'est, qui englobe la vie humaine, évidemment, ça a comme vocation de nous mettre debout. Des hommes et des femmes debout, qui prennent des décisions capables d'aimer et d'aider à leur tour d'autres parce qu'ils ont reçu. Et donc c'est important de voir que dans les immaturités que l'on peut avoir, qui tournent soit autour d'une victimisation, soit autour d'un ego qui est surdimensionné, mais c'est souvent, j'allais dire, chez les cathos, c'est plutôt le premier. C'est-à-dire que c'est plutôt, pas assez de confiance en soi, parfois pas assez on n'a pas une suffisamment idée de soi-même juste, qui fait qu'on se dévalorise, qui fait que, voilà, un peu ce système de dévalorisation qui n'est pas juste. Hein. Avoir une idée juste de soi-même, c'est pas contre l'humilité. Hein. J'aime bien cette phrase de la grande Thérèse, la Thérèse d'Avila, hein, l'humilité, c'est la vérité. La Très Sainte Vierge n'a pas hésité à dire toutes les générations me diront bienheureuse. Mais disons, celle-là, moi, elle a de l'auto-estime, hein, ça c'est bon, hein, ce qu'il faut au niveau des jeux. Ben non, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Elle le reçoit comme une grâce. Et en ce sens-là, je pense que toutes les formes de manque de confiance, toutes les formes entretenues, j'allais dire, toutes les formes de dévalorisation personnelle, etc., c'est pas de Dieu. Comme toutes les formes d'ego surdimensionné, c'est pas de Dieu. Donc, c'est pas facile de trouver justement ce juste mesure, ce juste milieu. Hein. Et donc, moi, je parle souvent pour. Et donc, les deux parfois sont en nous. C'est un petit peu contradictoire de dire ça, mais les deux sont en nous. Hein, c'est que on peut à la fois être sur certains aspects très prétentieux, très sûr de nous-mêmes, arrogant. Et sous d'autres aspects, au contraire, voilà, excusez-moi de vous demander pardon, quoi. Donc, complètement en se sentir en dessous de tout, etc. Alors que, bon, c'est pas ça non plus qui va me faire grandir. Hein. Alors, pour travailler sur la maturité, je vais me servir d'un document du Vatican II, du Concile Vatican II, qui s'appelle Optatam Totius, que vous avez déjà tous en tête, j'imagine. Optatam Totius, si vous ne savez pas, Optatam, en deux mots, Optatam, ça s'écrit, sur le latin, ça s'écrit comme ça, Optatam Totius, voilà, T-O-T-I-U-S, Optatam Totius, voilà, c'est alors... C'est, vous savez, vous ne savez pas, mais je pense que vous ne savez pas grand-chose, mais c'est que les premières lettres en latin, en général, ça désigne les premières lettres du décret ou de l'encyclique, Redemptor Hominis, c'est les premiers mots de l'encyclique en latin. Du coup, on le cite en latin comme ça, bon voilà, tu parles à un étranger, il comprend, voilà. Mais bon, ouais. Donc, ou pas, oui, comprend ou pas. C'est vrai que ça ne pas évident, mais bon, dans les, du coup, voilà, on a des références comme ça. Optatam Totius, numéro 12. Il y a des numéros. Là aussi, il ne faut pas demander la page, c'est comme dans la Bible, il n'y a pas de page, il n'y a que des numéros. Donc, au moins, quelles que soient les traductions, les éditions, etc., tu t'y retrouves. C'est un côté pratique. Trois critères pour. Justement, alors, de quoi parle ce document? La formation des prêtres. Rassurez-vous, je ne veux pas, jeune homme, vous embrigader, mais c'est assez intéressant parce que ça s'applique à tous. Et je trouve intéressant, il s'adresse entre autres aux formateurs de séminaires, et il dit, vous vérifierez la maturité du candidat. Trois choses que Optatam Totius met en avant au numéro 12. Premièrement, égalité d'esprit. Deuxièmement, prudence dans les décisions. Troisièmement, bonne appréciation des événements et des personnes. Égalité d'esprit, prudence dans les décisions, bonne évaluation, appréciation des événements et des personnes. Commençons par l'égalité d'esprit. Égalité d'esprit, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, l'inverse, c'est au contraire... le côté cyclotymique. Cyclotymique, c'est pas celui qui fait du vélo, c'est celui. Donc cyclotymique, c'est celui qui. Les montagnes russes, tu veux la psychologie en montagne russe. Un jour, complètement exalté, etc. L'autre jour, dépré au maximum. Je ne vais plus. Voilà. Ça c'est on voit bien. Ça, c'est c'est l'inégalité d'esprit, l'inégalité d'humeur. Hein, donc, c'est intéressant de voir que. En nous, parfois, ces humeurs changeantes, parfois même au cours d'une même journée, ne nous aident pas. Parce que du coup, comme c'est de l'ordre de l'affect, de l'ordre des émotions, etc., du coup, on voit bien que ça nous transbahute d'un côté de l'autre, ça nous tend des pièges de ce fait-là. Hein. Et donc, du coup, comment un peu sortir de ça, c'est, moi, je trouve, l'intelligence... qui est un grand don de Dieu, nous permet de prendre du recul par rapport justement à ce que nous pouvons expérimenter au plan affectif, au plan émotionnel. Ça permet de prendre une certaine distance et d'objectiver les choses. C'est pas aux émotions. Les émotions, elles sont là. Encore une fois, c'est comme le plaisir, les émotions, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont là. Mais c'est pas à elles de prendre le gouvernail. Le Seigneur nous a donné deux éléments pour prendre le gouvernail, notre intelligence et notre volonté. Voilà, c'est ça qui nous sert pour prendre le gouvernail de nos vies. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre non plus de prendre le gouvernail de nos vies. Je pense que de ce point de vue-là, le fait d'avoir une certaine égalité d'esprit, et surtout par rapport à l'imagination, dont je vous ai parlé des tentations, mais l'imagination, ça nous entraîne aussi dans cette inégalité d'esprit. Parce que, mais qu'est-ce qu'a pensé l'autre? Comment il m'a regardé? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je me compare à l'autre, etc., etc. Donc, tout ça, c'est pas bon, parce que ça nous met beaucoup trop sous le regard de l'autre. Il faut apprendre à dire « je ». Apprendre à dire « je », c'est apprendre aussi à dire « non ». Et là aussi, nous avons souvent des progrès à faire, et donc, parfois, forcément, parfois rentrer en conflit. celui qui n'accepte pas de rentrer en conflit. Souvent, la raison, parce qu'il veut plaire. C'est parce qu'on veut, on veut toujours être aimable. On veut toujours être apprécié. On veut être le gentil, la gentille. Moi, j'ai appris à rentrer en conflit dans la vie religieuse, par exemple. Bon, c'est dommage pour les frères. Mais c'est auparavant, mon éducation, c'était pas comme ça. Mon éducation, et encore, je vois des réflexions de maman, etc., pas de vagues. Surtout, poussière sous le tapis. Mais non, c'est pas ça la vraie vie. On se dit les choses, du coup on se disait rien. L'important, c'était pas des choses qui manquaient à se dire, mais bon, il y a parce que peur que ça parte en live, je sais pas quoi, peur, je sais pas quoi, mais j'ai été éduqué comme ça, c'est une forme d'éducation, voilà, bon. Et ça, évidemment, dans la vie religieuse, et je veux dire, dans la vie commune, qu'elle soit matrimoniale ou religieuse, de toute façon, c'est ingérable. C'est ingérable. Donc du coup, à un moment donné, je me suis dit, oula, où je vais, et puis je souffrais beaucoup, etc. Mais en fait, idiotement, parce que c'était une immaturité, quelque part. Et c'est vrai que je rends grâce, au fond, à tout ce cheminement que m'a aidé à faire la communauté, pour justement, bah, voilà, dire « je », mais dire « je » aussi, pas comme un capiriste, pas comme un gamin qui veut, voilà, qui trépine, c'est pas ça, c'est vraiment d'être un homme debout. Et ça, je pense que c'est quelque chose, justement, l'égalité d'esprit, c'est ne pas avoir peur aussi du conflit. Des conflits dans la vie, vous en avez déjà eu, vous en aurez, mais c'est pas le conflit, c'est pas la petite rebelle qui se rebelle contre tout, qui envoie toute son éducation balader, etc. Ça c'est idiot, c'est complètement idiot. Mais bon, maintenant il y a des conflits, ça arrive le conflit. Parce que de prendre une décision, ben forcément, imaginons que vous êtes dans une relation amoureuse, vous voyez clairement qu'il faut arrêter, ben forcément ça va provoquer des conflits, des vagues autour de vous. Surtout si on a payé les acomptes pour les petits fours, par exemple. Donc, à mon avis, ça peut vite devenir chaud. Donc voilà, c'est... il faut beaucoup de force de caractère, hein, dans ce cas-là. Surtout dans des milieux un peu bourgeois, etc., où il y a une grosse pression, et tout un rouleau compresseur formidable. Bon, ben, il faut une grosse force de caractère. Hein, et donc... voilà, donc je pense que c'est l'imagination, mais aussi la capacité de se positionner. L'égalité d'esprit, c'est vivre aussi le moment présent. Attention à cette imagination qui nous fait rester dans le passé ou nous projeter dans un futur qu'on idéalise. Adhérer à la réalité présente. À quoi on voit qu'une personne est mature, c'est qu'elle est ancrée dans le réel. N'a pas peur de ce réel-là qu'elle vit, cette personne. Réel au niveau de la santé, réel au niveau des relations familiales, amoureuses, professionnelles. C'est ce réel-là. Alors que précisément, l'inégalité d'esprit voudrait justement nous faire rêver d'un autre réel. Ou alors l'inégalité d'esprit, c'est aussi la question de la susceptibilité. N'appelons pas chez les autres susceptibilité, ce que l'on appelle chez nous sensibilité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'autre, il est susceptible, mais moi je suis très sensible. Bah, attention, ça aussi c'est pas en place. Je veux dire, cette susceptibilité qui fait que je ne peux pas dire les choses justement à quelqu'un, ou on ne peut pas me dire les choses sans que... tout de suite, parce que j'ai justement une sensibilité qui n'est pas ordonnée, qui n'est pas en place. Du coup, on ne peut pas dire les choses. Les autres ne me le disent pas, mais pourquoi ? Peut-être qu'ils ont peur de ma réaction excessive dans l'emportement ou dans la colère ou dans... justement, donc, apprendre l'égalité d'esprit, ça prend une certaine distance si on a une affectivité, une sensibilité peut-être très aiguisée, très forte, mais qui prend trop de place. L'intelligence est là, et avec tout le toute la vie chrétienne en général, va nous aider à prendre un recul par rapport à ça. Et c'est pour ça que arriver à une certaine maturité, ça ne se fait pas sans souffrance. Non pas qu'on recherche la souffrance sans souffrance, mais pour la souffrance, mais de fait, c'est souvent par des épreuves qu'on arrive à une certaine maturité. Donc ne nous étonnons pas de passer par des épreuves. Hein, l'épreuve manifeste à l'extérieur ce que l'on porte à l'intérieur. Hein, c'est au temps de la photo argentique, que les moins de 20 ans n'ont pas connue, ou si, j'en sais rien. Ben voilà, il y avait le. Moi, j'avais fait de la photo, etc. Donc, on imprimait, on sortait le négatif, on imprimait sur du papier, hop, on mettait dans le révélateur, ensuite, on mettait dans le fixateur. Hein, ceux qui ont fait un peu des ateliers photo à l'ancienne. Maintenant, tu claques l'USB, bon, c'est bon. Donc, c'est bien, mais je trouve ça intéressant parce que du coup, dans le révélateur, dans le bain révélateur, apparaissait l'image. Et ensuite, clac, on la plonge dans le fixateur pour la stabiliser. Mais je trouve que l'épreuve, c'est une forme de, justement, ce bain révélateur. Tu as une épreuve, mais qu'est-ce qu'elle révèle de toi-même ? Qu'est-ce qu'elle révèle de toi-même ? Peut-être l'autre est en tort, c'est possible. C'est encore, mais je veux dire, peu importe. Mais de toi-même, qu'est-ce que ça révèle ? Alors, si la maturité par rapport à l'égalité d'esprit consiste à l'accueil du réel, la maturité spirituelle, la maturité humaine pour la première, mais la maturité spirituelle à ce niveau-là, c'est l'accueil de la volonté de Dieu telle qu'elle se manifeste. On verra demain avec les critères de discernement, mais je vous reciterai cette citation que j'aime bien du philosophe Pascal. Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Tu es dans cette famille, dans ce pays, avec ce corps-là, avec ces problèmes de professionnels-là, dans ces iket nunc, c'est-à-dire iket nunc, c'est encore du latin, c'est ici et maintenant. Ça, c'est des maîtres spirituels. Donc la maturité spirituelle, ce sera l'accueil de cette volonté de Dieu qui se manifeste dans ces circonstances. Deuxième point, la prudence dans les décisions. La prudence, donc, est une des vertus cardinales, comme les points cardinaux. Donc, vous savez... répète au cas où, mais bon, vous avez un petit trou parce que vous vous réveillez de la sieste. Donc du coup, il y a la tempérance avec la prudence, force, tempérance et justice. Prudence, force, tempérance et justice. La prudence, c'est cette capacité d'ordonner les moyens aux fins et de hiérarchiser les fins entre elles. La capacité d'ordonner les moyens aux fins et de hiérarchiser les fins entre elles. La prudence, ce n'est pas appuyer sur le frein. Ça peut être très dangereux, même dans la circulation routière, que d'appuyer brusquement sur le frein. Donc, je suis très prudent, c'est-à-dire que j'en fais le minimum. Mais non, ça peut être très imprudent d'en faire le minimum. Et donc, la prudence a... donc, c'est la vertu de prudence. La vertu de prudence est intéressante, de dire quelques mots sur la vertu. La vertu, donc, c'est une force... Une disposition, la définition, c'est disposition permanente acquise par la répétition des actes. Vertu, quelqu'un virtuose, on parle au niveau artistique, un virtuose, ben voilà, c'est quelqu'un qui a en lui, qui possède l'art du piano, l'art du violoncelle, l'art du théâtre, l'art de la peinture, mais c'est rarement inné. Il y a des génies, quelques génies, pour qui c'est très facile, à 4 ans, ils composent des symphonies, mais la plupart du temps, c'est la répétition des actes. la répétition des actes qui va faire le virtuose. Et beaucoup de travail. Et de même, au plan humain, la vertu de prudence, ce n'est pas un acte de prudence qui va faire la personne prudente. De même, ce n'est pas un acte d'imprudence qui va faire de la personne imprudente. Mais c'est la multiplicité des actes qui va nous emmener ou vers la vertu ou vers le vice. Sachant que, comme on l'a vu ce matin, le premier acte vers la vertu est souvent le plus difficile. Parce que quitter le monde. Les trois étapes de la prudence, de la vertu de prudence. Premièrement, la délibération. Quand on a une décision à prendre. Donc la vertu de prudence, comme le discernement en général, vise la prise de décision. Donc ce que je vous dis là, c'est pour toute prise de décision. C'est, le discernement ne vise pas la contemplation. C'est-à-dire, ne vise pas, c'est ce qu'on appelle l'intelligence pratique, c'est pas l'intelligence spéculative. Spéculative, non pas pour les cours boursiers, mais l'intelligence spéculative, c'est l'intelligence qui a le but de contempler la Trinité, de contempler les mystères de Dieu, contempler la nature, ça, qui n'a pas forcément à passer à l'action. Là, c'est de l'ordre de l'acte, de l'agir. Donc, trois étapes de la vertu de prudence. Premièrement, la réflexion, la délibération. Pourquoi est-ce que je veux prendre, on s'entend, des décisions un peu importantes. Choisir entre un pain au raisin et un pain au chocolat, il n'y a pas besoin de prendre toutes les étapes que je viens de vous dire, sinon vous mourrez de faim devant la boulangerie. Donc, première chose, donc, la délibération. Ne pas prendre une décision sous l'émotion. L'émotion, elle est là, elle est en compte, elle est peut-être un indice, elle nous donne un petit... On la nie pas non plus, parce que si on la nie, c'est l'effet cocotte-minute dont on tient le bouchon. Donc, ça peut être compliqué. Donc, la réflexion, la délibération, c'est pourquoi je veux prendre telle décision? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai comme élément? Qu'est-ce que... Voilà. Parfois, ça m'arrive très vite. Cette étape-là se passe dans un temps très court. Mais au fond, parfois, ça peut prendre plus de temps. Deuxième chose, le conseil. Demander conseil à des personnes capables de se conseiller. Il y en a beaucoup qui se confessent à leur coiffeur. Mais bon, ils peuvent se confesser, mais ils ne donneront jamais l'absolution. Donc, d'autres qui racontent leur vie à leur boucher, à leur commerçant, c'est pas la bonne personne. Donc, demander conseil à qui peut me donner des conseils. Et ne pas multiplier les conseils. C'est un peu l'exercice qu'on vous a demandé de faire pendant la retraite, de vous tenir à votre accompagnateur ou accompagnatrice, sauf cas particulier. Mais bon, vous dites, c'est pas multiplier, parce qu'ensuite, trop de conseils, tu le conseilles. C'est-à-dire, si je vais demander à un tel, le père un tel, chacun, forcément, avec sa bonne foi, me dira ce qu'il en pense, mais c'est pas forcément que ça va dans le même sens. Troisièmement, l'action, le passage à l'acte, ce qu'on appelle l'imperium. Je passe à l'acte. Et donc, on voit des personnes, par exemple, par rapport à ça, qui sont velléitaires, c'est-à-dire qui n'arrivent jamais à passer à l'acte. C'est ce qu'on appelle les pusillanimes. Pusillanime s'oppose à magnanime. Pusillanime, c'est avoir une âme petite. Et magnanime, avoir une âme grande. C'est ce qu'on appelle la grandeur d'âme. La grandeur d'âme, c'est-à-dire le courage. C'est vrai que pour passer à l'acte, dans certaines circonstances, il faut du courage. Donc il faut aussi la vertu de force. La vertu de force, c'est le courage. Donc c'est intéressant de voir qu'au fond, et des personnes qui restent, on voit des personnes qui font un grand cercle, qui vont, je vais re-réfléchir encore, puis je vais reprendre conseil, et puis je vais re-réfléchir, et puis maintenant j'ai peut-être pas assez demandé conseil, et qui finalement n'arrivent jamais à prendre une décision dans leur vie. Donc il en va aussi de la fécondité de leur vie qui n'est pas au rendez-vous. Parce que, à un moment donné, il faut shooter dans le ballon, quoi. J'aime bien ce que dit le pape François de ce point de vue-là. Il dit, je préfère une église qui s'engage, même si c'est qu'un cas et qui sont un peu blessés, que plutôt qu'une une église de musée. Voilà, ben parfois, oui, on fait des trucs, c'est pas terrible, on redresse, on avance. Parce que, et une chose qui paralyse l'action, C'est la peur de l'échec. C'est la peur, c'est quelque part, souvent des peurs, là aussi c'est au niveau des émotions les peurs. La peur de l'échec, la peur de de souffrir. Ah, j'ai déjà eu une relation amoureuse, vous ne savez pas comme j'ai souffert mon père, plus jamais, les femmes maintenant, etc. Bon, ben non, mais c'est pas ça. Pas comme ça que ça se passe. On guérit de mauvaises expériences en se faisant de bonnes expériences. C'est la manière de guérir. Et donc, c'est vrai que le fait de ce passage à l'acte, eh bien, choisir, on le sait bien, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer, donc ça veut dire aussi renoncer à d'autres possibilités. Et c'est là aussi ce qui nous empêche de passer à l'acte. Parce qu'on veut tout et son contraire. Il y a une sorte de jouissance d'avoir les possibles devant nous. Surtout quand on est jeune pro comme ça, célibataire, bah, tout est possible. Demain, paf, claque, vous dites je pars au week-end, je pars, bah oui, c'est sûr, tout est possible. Le fait de ne pas choisir aussi fait que, quelque part, vos vies, quand il y a des choix à faire, bah, restent en deçà de ce qu'elles pourraient être données comme fruit. Quoi. Au fond, ce passage à l'acte, comme la vertu de prudence en général, c'est le signe d'un amour. C'est le signe d'un amour, c'est vraiment c'est le signe d'un amour qui s'engage. La liberté, c'est une liberté pour quelque chose. Ce n'est pas une liberté en soi. J'exerce ma liberté quand j'ai pris des décisions, quand j'ai engagé ma liberté. Ah, mais je suis libre, je n'ai pris aucune décision. Mais justement, tu n'es pas libre. Comment montrer que tu es libre? C'est en prenant des décisions. Donc la prudence dans les décisions. Et donc on voit justement à ce niveau-là des immaturités qui sont diverses, hein, que ce soit par trop de délibération, trop de conseils, ou un passage à l'acte, parfois ça marque, mais un passage à l'acte qui ne tient absolument pas compte ni de la délibération ni du conseil. Certes, le conseil qu'on a pris, le conseiller n'est pas là pour prendre la décision à votre place, hein, vous le savez. Mais c'est vrai que quand même, ça doit un peu tenir. Et voilà, des personnes, elles ont bien réfléchi, elles ont posé les bons trucs, elles ont fait leur colonne plus, moins, etc. Elles ont été voir les bonnes personnes, etc. Puis en fait, pas quoi, sous le coup de l'émotion, allez, elles prennent une décision qui n'a strictement rien à voir. Et ça, je pense que c'est aussi un signe de maturité. Bonne appréciation, troisième point, bonne appréciation des événements et des personnes. C'est important de ne pas donner à un événement dans notre vie une capitale, une importance excessive. Je vois des personnes comme ça qui arrivent et qui ont commis un certain nombre d'erreurs, d'actes dont ces personnes sont peu fières, mais qui, somme toute, ça revient toujours à avoir une importance, mais colossale. Et je trouve ça intéressant en morale, quand on étudie la morale, la théologie morale, la différence entre acte et personne. On peut poser des actes mauvais sans être une personne mauvaise. Ça, c'est très tôt dans l'Église, où on a eu entre autres Saint Augustin qui a travaillé sur de dire l'acte est une chose, la personne est une autre. L'image de Dieu reste comme un sceau dans le cœur de chaque être humain, la ressemblance, elle se travaille. Donc c'est vrai qu'entre acte et personne, tu as peut-être fait une erreur pour X raisons au niveau professionnel, au niveau affectif, mais ta vie ne se résume pas à ça. Et donc d'avoir une maturité, c'est aussi d'avoir une certaine miséricorde envers soi-même, qui nous permettra d'avancer, même si des actes que l'on a pu poser n'ont pas été conformes ni même avec notre idéal ou avec ce qu'on aurait souhaité vivre. une bonne appréciation des personnes. Ça, par exemple, pour la question du mariage, c'est capital. Beaucoup d'échecs dans le mariage viennent d'erreurs de casting. C'est-à-dire qu'il y a eu un mauvais casting à la base, donc forcément, après, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas le faire. Quoi. Et donc, c'est d'avoir une... Mais c'est là où c'est, ça demande un peu de maturité, de conseil, justement, et de faire confiance aux personnes qui ont peut-être plus d'expérience, un peu d'expérience des personnes, d'expérience des âmes aussi, de ce qu'elles sont. Parce qu'on peut très bien se faire embringuer dans une histoire, par exemple, amoureuse, ou dans une histoire professionnelle, ou dans je sais pas quoi, tout simplement parce qu'on n'a pas l'expérience, parce qu'on est jeune, parce qu'une personne nous a tapé dans l'œil, ou voilà, on a été ou un peu manipulé, ou un peu... et, alors que, voilà, c'est pas... C'est, on a trop donné à une personne beaucoup trop d'importance. Et on lui a donné parfois les rênes de notre vie. Hein, on a vu ce matin avec l'emprise... Personne n'a à prendre les rênes de notre vie. Dieu lui-même nous les confie pour que nous les puissions les lui remettre. Mais il nous les confie. On n'est pas des marionnettes. Donc ça veut dire aussi, bonne appréciation des personnes, d'avoir une certaine lucidité à la fois sur sans idéaliser les personnes. Lucidité, mais sans non plus, comment dire, la fragilité humaine fait partie de notre nature humaine. Et c'est vrai que parfois on est déçu par certaines personnes en qui on avait mis notre confiance, en qui on avait mis notre espérance, c'était un peu, le mot est un peu fort, mais voilà, il y a des déceptions, amoureuses, mais autres, ou déceptions par rapport à un manager, déceptions, voilà, on avait idéalisé la personne, on a dit, ben, celui-là, celle-ci, voilà, elle va me sortir d'affaire, comme si c'était le remède miracle. C'est avoir une vision bienveillante, vouloir le bien de l'autre, sans idéaliser l'autre. Et avoir une juste distance par rapport à l'autre. Juste distance, hein, ça fait partie aussi, on a parlé de la chasteté ce matin. La chasteté, ce n'est pas simplement des questions sexuelles. La chasteté, c'est une certaine chasteté, c'est je n'ai pas à avoir une emprise sur l'autre. C'est renoncer aussi à une emprise sur l'autre. À vouloir à un pouvoir que je peux avoir pour X raisons. Hein, comme par exemple le pouvoir spirituel, qui est un vrai pouvoir, ben, de pas l'utiliser pour voilà, parce que je sens que ben, j'ai une certaine force, une certaine, et puis du coup je peux très bien vouloir guider la vie des autres, alors qu'on nous demande d'accompagner la vie des autres, c'est pas pareil. Et donc de renoncer à ce certain pouvoir. Mais les autres restent autres que moi. Et par nature, ont vocation à m'échapper. Par nature, je ne vais pas les contrôler. Je dis, on n'est pas... Et ça, je pense que de ce côté-là, c'est... Bon, j'ai appréciation des personnes, c'est avoir une bonne distance. Une trop grande proximité, quelle qu'elle soit, une trop grande proximité, et voir une fusion de relations fusionnelles, toujours se termine mal. Toujours. On peut faire confiance en quelqu'un, mais ce n'est pas une confiance aveugle. Parce que l'autre personne aussi est marquée par le péché, et lui aussi, ou elle aussi, a une humanité cabossée comme la nôtre. Mais il n'en demeure pas moins que le bon Dieu passe par des personnes. Il n'en demeure pas moins ça, que c'est ses bras, c'est-à-dire la personne humaine, ben ce sont à la fois, nous sommes les bras, les yeux, le sourire, la chaleur de Dieu qui se manifeste par des personnes humaines. Donc c'est important de garder un bon équilibre par rapport à ça. Au plan spirituel, par rapport à ce que je viens de vous dire dans la prudence et la bonne appréciation des événements et des personnes, Je pense que la prudence, parce que les saints, par exemple, ont fait des choses tout à fait imprudentes au regard de ce que je viens de dire. Mais précisément, il y avait quelque chose du Saint-Esprit qui, non pas vient s'opposer à la vertu de prudence, mais qui l'emmène au-delà, quelque part, qui l'emmène dans une prudence qui est fondée aussi d'abord en Dieu. Mais c'est vrai que l'Église toujours a été très précautionneuse par rapport aux apparitions, par exemple, par rapport on a parfois peur trop de charismes qui sont donnés à des personnes, particulièrement en France. Du coup, on regarde ça, attention, c'est gourou, c'est etc. Bon, mais il peut y avoir des vrais charismes donnés à des personnes. Mais d'une manière ou d'une autre, vous voyez, le discernement d'un charisme, d'une manière ou d'une autre, cette personne-là acceptera d'être dans la dépendance, dans une certaine obéissance. Je parle de dans l'Église. Sinon, si c'est l'électron libre, attention. Donc oui, il y a des charismes, oui, il y a des gens qui posent des actes qui sont assez extraordinaires, assez étonnants, auxquels on n'aurait pas pensé, mais d'une manière ou d'une autre, ces charismes, c'est valable pour nous, à notre modeste mesure. On doit remettre ce charisme-là dans une certaine humilité et confiance dans l'Église. Dans l'Église, que ce soit pour des religieux, des prêtres, des religieuses, des laïcs, on procède par envoi, par appel et par envoi. On est envoyé vers. Et dans l'appréciation des événements et des personnes, je pense que rien ne remplace, de ce point de vue-là, l'expérience. Et l'expérience spirituelle aussi, la prière, comme on a vu hier, les fruits du Saint-Esprit en nous. Ou avant-hier, les fruits du Saint-Esprit en nous nous aident aussi à, par rapport à des actes à poser, comme par rapport à une appréciation des personnes ou des événements, à avoir un peu la juste mesure. Est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est pas de Dieu? Alors, qu'est-ce qu'on fait si on coche toutes les cases de l'immaturité? Donc, soit 99% d'entre vous. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On tient à votre disposition des antidépresseurs, ça c'est une première chose. Ensuite, la neuvaine à Sainte Rita pour les causes désespérées. Et puis, troisième chose, quelques points pour grandir spirituellement et humainement. Premièrement, je dirais l'accompagnement. Et vous avez expérimenté, c'est une des grâces de la retraite, modestement, sur le court terme, ce que peut être l'accompagnement. N'attendons pas non plus de l'accompagnateur qui vous fasse des grandes révélations, qui vous dise « va là, va ci, fais ça, fais ceci, fais bon ». Il peut éventuellement, comme je vous l'ai dit le premier jour, mettre en garde, dire « écoute, ça me paraît, à vue humaine, un peu compliqué à gérer, regarde-y à deux fois ». Mais en tout cas, c'est pas lui, évidemment, de décider pour être votre place, et encore moins, il doit simplement être là comme à pointer du doigt, tiens, là, avec l'expérience spirituelle que j'ai, c'est pour ça que c'est pas facile de choisir un accompagnateur spirituel, parce que ça demande aussi des expériences spirituelles assez communes, je veux dire, ça demande aussi faut que ça colle entre les deux, au niveau personnalité, au niveau psychologique aussi, il faut une certaine acquaintance. Donc, on l'a parlé avec tout le monde, parce que c'est un peu logique, hein, surtout que dans l'accompagnement spirituel, on se confie, on se livre. Donc, je pense, une manière vraiment, et ça, je trouve que dans l'Église catholique, c'est assez peu, contrairement à l'Église orthodoxe, où là, tout le monde a son starette, son accompagnateur spirituel, etc. Il y a une tradition très forte de ça. Chez nous, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tradition, ou même de personnes disponibles pour l'accompagnement spirituel. Peut-être certainement pas assez, et encore moins dans nos sociétés occidentales, où il y a une très grande solitude, et où les gens sont quand même en grande demande. Alors des laïcs, c'est heureux, se forment à l'accompagnement spirituel, se forment à, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut, parce qu'il y a un vrai besoin, il y a une grosse demande. Moyen pour mûrir. Cette confiance, au plan spirituel, cette confiance dans la miséricorde. Encore une fois, si ton cœur t'accuse, rappelle-toi que Dieu est plus grand que ton cœur. Les sacrements sont les canaux privilégiés de la grâce. Pas unique, Dieu passe par les autres sacrements, pas par d'autres réalités que sacramentelles, heureusement, mais on sait qu'il est là. C'est les canaux privilégiés de la grâce. Un autre moyen pour... il peut y avoir aussi des moyens humains. Au plan psychologique, voire au plan psychiatrique dans certains cas, ou au plan de la santé, au plan... des moyens humains qui sont à votre disposition pour pouvoir, si vous sentez que, voilà, c'est quelque chose d'ordre plus. Et c'est pas toujours facile quand on est accompagnateur, parce que c'est un mix des deux. Il y a la partie spirituelle, mais aussi il y a forcément la partie psychologique. Et donc, comment faire et comme nous, comme accompagnateurs, on n'est pas formés à la partie psychologique. On commence à avoir une certaine expérience de l'âme humaine à force de rencontrer des gens, à force, etc. C'est une certaine expérience, un peu sur le tas, mais on n'a pas forcément la science de ça, on n'a pas la formation pour ça. Et donc, du coup, c'est à nous d'envoyer vers des personnes quand besoin se fait sentir, des personnes qui, au plan humain, vont pouvoir vous aider à avancer dans votre vie, tout simplement, Je pense aussi à un autre point au plan spirituel cette fois-ci, c'est l'action de grâce, la louange. La louange, pourquoi ça aide à grandir, ça aide à mûrir la louange? Parce qu'on ne fait pas toujours les immaturités d'une manière ou d'une autre, c'est une forme de repli sur nous-mêmes. Les immaturités, c'est une sorte de repli, comme on l'a vu, soit parce que je me sens nul, etc. Soit je me replie je me repais de moi-même dans un égo surdimensionné. Et donc, du coup, je trouve que la louange, ça nous décentre. La louange de Dieu, la louange, l'action de grâce de façon générale, alors que ce soit dans des groupes de prière, etc., mais de remercier le Seigneur au quotidien, je trouve que ça nous décentre, ça nous permet justement d'être moins fixé sur nos problèmes, moins fixé. Avec la louange, le service. Où est-ce que tu te donnes aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la beauté d'une personne? C'est sa capacité de don. Où est-ce que tu te donnes aujourd'hui? Tu as besoin de te nourrir, oui, tu as besoin d'être accompagné, d'entendre des formations, d'entendre, etc. Mais où est le lieu où tu te donnes? Parce que ce lieu où tu te donnes, ce sera aussi le lieu de croissance. Ce sera aussi le lieu de rencontre avec des frères et des sœurs que tu n'auras pas choisis et qui t'aideront justement à grandir humainement et spirituellement. Et bien souvent, la personne, j'allais dire, que l'on n'a pas choisie et qui nous exaspère le plus, c'est précisément cette personne-là qui va nous aider le plus à grandir. Parce que, pourquoi ça, on voit bien en vie communautaire, il y a des personnes qui nous exaspèrent, mais le problème n'est pas l'autre, le problème c'est d'abord moi. Comme ça, il y a un père qui était supérieur longtemps dans la congrégation et qui nous parlait de la correction, qui est assez redoutable, la correction, ce qu'on appelle dans la vie religieuse, la correction fraternelle. Qui est souvent plus correction que fraternelle, du reste. Donc, la correction fraternelle, c'est-à-dire que on va voir le frère ou la sœur, et, grosso modo, on lui dit ce qui ne va pas. Hein? Bon. Alors, il nous a dit, ça c'est juste, mais très exigeant, lorsque le frère, ce que fait le frère, ça ne t'exaspérera plus, tu pourras aller lui dire. Bon, allez, prends ça. C'est-à-dire que lorsqu'au fond, ce ne sera pas simplement d'un hérissement, d'agacement. Voilà, c'est vrai que parfois on est agacé par des attitudes, ça reste humain. Mais lorsque tu as fait un travail sur toi-même d'apaisement, et que tu verras au fond plus, qu'est-ce que vient toucher le frère en toi? Qu'est-ce que ça vient révéler en toi? Alors peut-être il a un problème, c'est possible. Ça, c'est, bon, maintenant, c'est sa vie, il verra avec aussi ceux qui l'accompagnent, etc. Mais qu'est-ce que en toi ça vient révéler? Qu'est-ce qu'en toi ça vient toucher? Et quand tu seras indifférent à ce qui continue ou qui s'arrête, ben tu pourras éventuellement lui dire, parce que déjà tu feras vérifier par un autre père qui est plus expérimenté que... parce que j'étais jeune, oui, il y a beaucoup de fois qui m'exaspéraient, mais il y a encore des fois qui m'exaspèrent, c'est encore chose. Mais bon, toujours été... Tu iras faire... Fais vérifier que c'est toujours faire vérifier qu'on est dans le juste. Parce que justement, par rapport à ça, on peut très bien être pas tout à fait réaliste quoi, dans la réalité. Et je pense que, en tout cas, le service, c'est rentrer, comme la vie professionnelle. Nous voyons le travail comme un service. Même si on occupe de grandes responsabilités, etc., c'est un service. Et donc le service nous fait rentrer dans une logique de don qui nous fait mûrir, qui nous fait avancer. Parce que dire service dit forcément prendre une décision de se mettre au service d'eux, par définition. Troisième ou xème point, l'espérance. Et je terminerai par ça, l'espérance. N'attendons pas d'être parfaits pour nous mettre en chemin. Ce perfectionnisme qui nous tend des pièges, qui nous rend la vie impossible. J'aime bien dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, j'aime bien ce passage, cette évocation de la résurrection, où on voit, on devine le Christ justement, qui sort nu du tombeau et qui... l'acteur passe sa main devant une lumière, etc. Et on voit de sa main, deux rayons sortent de ses mains, ça c'est le psaume, hein, et donc on voit de sa main sortir une lumière, de sa main transpercée sort une lumière. Hein, et je pense que c'est très important que le Christ soit ressuscité avec ses plaies, et non pas comme super bodybuildé, impeccable, à l'arrêt bien sur le côté. Non, mais quelque part, ça ne m'aurait pas intéressé, quoi. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par un Christ qui ressuscite avec ses plaies. De ses plaies, c'est des plaies lumineuses. Alors oui, on est un peu cabossé. Oui, on a eu des grands garçons, des grandes filles, vous avez vécu des choses, etc. Bon, mais de ces plaies peut naître une fécondité. Je suis toujours marqué par... l'exemple de Tim Guénard, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Tim Guénard, hein, qui a, voilà, enfant de la DAS, délinquant, je pense qu'il a fait aussi de la prison, etc. Bon. Et puis il a eu deux grâces dans sa vie, la rencontre avec Dieu, la rencontre avec sa femme. Et j'ai rencontré cet homme-là à une occasion, j'étais très, très marqué par un homme qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance dans sa vie. Mais c'est un homme qui est apaisé. Et de ses souffrances, il en a fait, il a construit une famille, et plus encore, maintenant, il accueille dans sa famille des enfants placés par le juge, etc. De ses souffrances est née une fécondité. Et ça, c'est l'espérance chrétienne. Blessés, mais nous avançons. Nous avançons parce que nous ne nous regardons pas. On n'est pas dans l'autocontemplation, on n'est pas dans la perfectionnisme de nous-mêmes. Non, on avance parce que d'abord on regarde le Seigneur. Hein, mets ta main dans mon côté, mets tes doigts dans mes plaies, etc. Sois croyant. Cesse d'être incrédule. Hein, Jésus qui dit ça à Thomas après la résurrection. Et c'est vrai que la disparition de l'espérance chrétienne dans nos pays de vieille chrétienté donne la place à une forme de désespérance. Désespérance parce que du coup, la personne blessée, la personne qui... Voilà, que ce soit dans le sein maternel ou que ce soit en fin de vie, ben voilà. À quoi bon, à quoi ça sert? Alors on va demander cette grâce au Seigneur de nous construire, et je pense que c'est la grâce de l'Église, c'est une grâce de l'Église énorme, c'est de pouvoir nous construire tel qu'on est, à notre manière. Il ne s'agit pas de faire, de voir une seule tête, etc., de tout le monde sur le même modèle. Non, non. Dans l'unicité de ce que je suis, l'Église met toutes ses forces pour me construire, m'aider à me construire, particulièrement quand on est jeune. Alors rendons grâce aussi pour tout ce que ceux qui ont été à nos côtés, qui nous ont construits, qui font que nous sommes hommes et femmes aujourd'hui, imparfaits certes, mais qui avançons et qui osons le défi de l'Évangile.